Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre un jeune Français qui parle de ses études à Montpellier. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 6. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Loïc, tu es étudiant et tu as fait tes études à Montpellier. Comment est-ce que tu as décidé de faire tes études à Montpellier?
Alors, une fois que j'ai eu mon bac, j'hésitais entre faire des études d'histoire ou devenir journaliste. Et donc, je suis allé à l'université de Montpellier pour me renseigner. Et là, j'ai compris que l'histoire m'intéressait et que c'était aussi une manière de pouvoir être journaliste plus tard, donc j'ai pas hésité longtemps pour m'inscrire à l'université de Montpellier.
D'accord. Et comment se déroule l'inscription à un cours?
Alors c'est assez compliqué, il faut venir sur place. Souvent l'administration est un peu chaotique, donc il faut revenir plusieurs fois. Et souvent les premiers sont les mieux servis parce qu'il y a plusieurs horaires. Et donc tous les étudiants veulent les mêmes horaires de cours et il faut être toujours le premier pour s'inscrire au bon horaire.
Est-ce qu'en France, chaque étudiant a le droit d'étudier ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut choisir librement?
À l'université, oui, on a le choix. Par contre, si on fait des études dans des écoles spécialisées ou dans des classes préparatoires, le recrutement se fait sur dossier et il faut avoir, par exemple, avoir une bonne mention au bac. Chose qui n'est pas indispensable pour étudier à l'université.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que par exemple pour entrer en classe préparatoire, donc pour être plus tard travailler dans la politique ou dans l'administration, si on n'a pas eu la mention bien au baccalauréat, on ne peut pas aller dans ces classes, alors que pour aller à l'université, il suffit d'avoir le bac.
D'accord. Et toi, tu as fait les études à Montpellier. Est-ce que tu peux décrire un peu la ville et les campus?
Oui, bien sûr. Alors Montpellier est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'universités. Et donc, pour moi, l'histoire, ça s'est passé dans la faculté de lettres de Montpellier, avec un campus très grand. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et donc, entre deux cours, c'est pratique pour se reposer ou pour discuter un peu. Le seul problème, c'est que les bâtiments sont un peu vieux, il n'y a pas assez d'entretien, et c'est aussi une faculté qui n'a pas beaucoup de moyens financiers pour faire les travaux de rénovation. Donc ça, c'était le seul problème de cette université.
D'accord. Et est-ce que la vie est chère à Montpellier?
Oui, la vie est assez chère, car il y a beaucoup d'étudiants, et donc beaucoup de demandes pour les logements. Moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui habitaient pas loin, donc pendant toutes mes études à Montpellier, j'ai continué d'habiter chez mes parents. Mais pour mes amis qui devaient louer un appartement parce qu'ils n'habitaient pas à Montpellier, c'était assez cher, effectivement.
Ok. Et est-ce que beaucoup d'étudiants français travaillent en même temps?
Oui, je crois qu'il y a la moyenne, c'est 1 sur 3, donc ce qui est quand même beaucoup. Parce que c'est difficile de réussir à la fois ses études et de travailler à côté. Et le taux d'échec aux examens est plus élevé chez les étudiants qui travaillent.
Ok. Bon, Loïc, tu es étudiant et tu as fait tes études à Montpellier. Comment est-ce que tu as décidé de faire tes études à Montpellier?
Alors, une fois que j'ai eu mon bac, j'hésitais entre faire des études d'histoire ou devenir journaliste. Et donc, je suis allé à l'université de Montpellier pour me renseigner. Et là, j'ai compris que l'histoire m'intéressait et que c'était aussi une manière de pouvoir être journaliste plus tard. Donc, j'ai pas hésité longtemps pour m'inscrire à l'université de Montpellier.
D'accord. Et comment se déroule l'inscription à un cours?
Alors c'est assez compliqué, il faut venir sur place. Souvent l'administration est un peu chaotique, donc il faut revenir plusieurs fois. Et souvent les premiers sont les mieux servis parce qu'il y a plusieurs horaires. Et donc tous les étudiants veulent les mêmes horaires de cours et il faut être toujours le premier pour s'inscrire au bon horaire.
Est-ce qu'en France, chaque étudiant a le droit d'étudier ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut choisir librement?
À l'université, oui, on a le choix. Par contre, si on fait des études dans des écoles spécialisées ou dans des classes préparatoires, le recrutement se fait sur dossier et il faut avoir, par exemple, avoir une bonne mention au bac, chose qui n'est pas indispensable pour étudier à l'université.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, pour entrer en classe préparatoire, donc pour être plus tard travailler dans la politique ou dans l'administration. Si on n'a pas eu la mention bien au baccalauréat, on ne peut pas aller dans ces classes, alors que pour aller à l'université, il suffit d'avoir le bac.
D'accord. Et toi, tu as fait les études à Montpellier. Est-ce que tu peux décrire un peu la ville et les campus?
Oui, bien sûr. Alors Montpellier est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'universités. Et donc, pour moi, l'histoire, ça s'est passé dans la faculté de lettres de Montpellier, avec un campus très grand. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et donc, entre deux cours, c'est pratique pour se reposer ou pour discuter un peu. Le seul problème, c'est que les bâtiments sont un peu vieux, et il n'y a pas assez d'entretien. Et c'est aussi une faculté qui n'a pas beaucoup de moyens financiers pour faire les travaux de rénovation. Donc ça, c'était le seul problème de cette université.
D'accord. Et est-ce que la vie est chère à Montpellier?
Oui, la vie est assez chère car il y a beaucoup d'étudiants et donc beaucoup de demandes pour les logements. Moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui habitaient pas loin. Donc pendant toutes mes études à Montpellier, j'ai continué d'habiter chez mes parents. Mais pour mes amis qui devaient louer un appartement parce qu'ils n'habitaient pas à Montpellier, c'était assez cher, effectivement.
Ok. Et est-ce que beaucoup d'étudiants français travaillent en même temps?
Oui, je crois qu'il y a la moyenne, c'est 1 sur 3, donc ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est difficile de réussir à la fois ses études et de travailler à côté, et le taux d'échec aux examens est plus élevé chez les étudiants qui travaillent.
Ok.
Exercice 2. Vous allez entendre Marie parler de son échange universitaire en Corée du Sud. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 7. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour, je m'appelle Marie. Je reviens d'un séjour linguistique à Séoul. C'était un échange universitaire que j'ai fait pendant 6 mois. Je suis partie avec 2 amis que je connaissais de mon cours de chinois. Au début, on ne parlait pas coréen du tout, alors on a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, ou même à lire ou à commander dans les restaurants. Donc, commander à manger, c'était quand même très difficile. En plus, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait manger. Et moi, en plus, je parlais mal l'anglais, ce qui fait que j'ai eu pas mal de problèmes. Pas de très gros problèmes, mais c'était un peu difficile. Après, un mois plus tard, on a enfin commencé les cours intensifs à l'université. C'était 4 heures de coréen par jour, tous les matins. Nous étions dans une classe avec beaucoup d'autres étudiants internationaux. Et il y avait aussi, surtout dans ma classe en fait, parce que j'étais séparée de mes 2 amis. Donc dans ma classe, il y avait aussi beaucoup de policiers qui sont venus à Séoul pour faire un stage dans la police de Séoul. Ils avaient des cours de coréen avec nous aussi. Donc on avait tous des âges très différents et on venait tous de pays différents. Donc je me souviens qu'il y avait un Philippin, il y en avait un du Kazakhstan, il y avait un Vietnamien, il y avait même une Thaïlandaise. Bref, on était vraiment de partout du monde, sauf des Chinois, parce que les Chinois avaient leur classe spéciale, parce qu'ils étaient très nombreux et ils parlaient déjà un peu coréen. Bon, dans tous les cas, notre classe, elle était très sympa, c'était comme une petite famille, et nos cours de coréen étaient super. Nous avons pu très vite faire de très gros progrès. Les professeurs, curieusement, n'ont jamais parlé en anglais. Donc, je ne sais pas trop comment ils ont fait pour réussir à nous faire comprendre la grammaire et même le vocabulaire, mais ça a toujours marché. Je sais qu'on avait des fois des vidéos ou des images, ou peut-être comme on vivait en Corée, on comprenait un peu par le contexte, ou c'était des mots qu'on connaissait inconsciemment, je sais pas trop, mais en tout cas, on a fait vraiment de beaux progrès. Au bout de 2 mois, je pense qu'on avait peut-être un niveau A1, A2, début A2 en tout cas. La vie à Séoul, après, j'ai vraiment aimé ça. Déjà, manger dehors, parce que la cantine, c'était pas trop mon truc, mais on pouvait manger dans un restaurant, et les restaurants étaient vraiment pas chers. Je crois pour un menu complet, on avait environ 2 euros par menu. Donc on mangeait tout le temps dans les restaurants. La nourriture coréenne, elle est très différente de ce qu'on a en France. Et elle est différente aussi de ce qu'on peut connaître des repas chinois ou japonais. Par exemple, ils aiment bien les choses avec de l'ail. Bonjour, je m'appelle Marie. Je reviens d'un séjour linguistique à Séoul. C'était un échange universitaire que j'ai fait pendant 6 mois. Je suis partie avec 2 amis que je connaissais de mon cours de chinois. Au début, on ne parlait pas coréen du tout, alors on a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, ou même à lire ou à commander dans les restaurants. Donc, commander à manger, c'était quand même très difficile. En plus, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait manger. Et moi, en plus, je parlais mal l'anglais, ce qui fait que j'ai eu pas mal de problèmes. Pas de très gros problèmes, mais c'était un peu difficile. Après, un mois plus tard, on a enfin commencé les cours intensifs à l'université. C'était 4 heures de coréen par jour, tous les matins. Nous étions dans une classe avec beaucoup d'autres étudiants internationaux. Et il y avait aussi, surtout dans ma classe en fait, parce que j'étais séparée de mes 2 amis. Donc dans ma classe, il y avait aussi beaucoup de policiers qui sont venus à Séoul pour faire un stage dans la police de Séoul. Ils avaient des cours de coréen avec nous aussi. Donc on avait tous des âges très différents et on venait tous de pays différents. Donc je me souviens qu'il y avait un Philippin, il y en avait un du Kazakhstan, il y avait un Vietnamien, il y avait même une Thaïlandaise. Bref, on était vraiment de partout du monde. Sauf des Chinois, parce que les Chinois avaient leur classe spéciale, parce qu'ils étaient très nombreux, et ils parlaient déjà un peu coréen. Bon, dans tous les cas, notre classe, elle était très sympa, c'était comme une petite famille, et nos cours de coréen étaient super, nous avons pu très vite faire de très gros progrès. Les professeurs, curieusement, n'ont jamais parlé en anglais, Donc, je sais pas trop comment ils ont fait pour réussir à nous faire comprendre la grammaire et même le vocabulaire, mais ça a toujours marché. Je sais qu'on avait des fois des vidéos ou des images, ou peut-être comme on vivait en Corée, on comprenait un peu par le contexte, ou c'était des mots qu'on connaissait inconsciemment, je sais pas trop, mais en tout cas, on a fait vraiment de beaux progrès. Au bout de 2 mois, je pense qu'on avait peut-être un niveau A1, A2, début A2 en tout cas. La vie à Séoul, après, j'ai vraiment aimé ça. Déjà, manger dehors, parce que la cantine, c'était pas trop mon truc, mais on pouvait manger dans un restaurant, et les restaurants étaient vraiment pas chers. Je crois pour un menu complet, on avait environ 2 euros par menu. Donc on mangeait tout le temps dans les restaurants. La nourriture coréenne, elle est très différente de ce qu'on a en France. Et elle est différente aussi de ce qu'on peut connaître des repas chinois ou japonais. Par exemple, ils aiment bien les choses avec de l'ail.
Exercice 3. Vous allez entendre un homme parler de sa ville préférée, La Rochelle. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 7 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors quand on me demande quelle est ma ville française préférée, j'hésite toujours entre Bordeaux et La Rochelle, mais quand même je réponds toujours La Rochelle. Alors c'est une ville où j'ai vécu moi-même pendant quelques mois à l'occasion d'un semestre universitaire et j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment une très chouette ville où il fait vraiment bon vivre. Alors la situation économique à La Rochelle est pas très très bonne. Je crois qu'il y a plus de chômage à La Rochelle que dans d'autres villes similaires en France. Mais malgré tout, je dois dire qu'il y a une atmosphère particulière. Alors je me rappelle, j'habitais en centre-ville, dans un vieil immeuble, tout en haut, sous le toit, dans un petit studio. Et le matin, pour aller à l'université, je partais à pied, je longeais la plage, donc je marchais au bord de la mer, comme ça. C'était vraiment très agréable. De la même façon, lorsqu'on allait à la bibliothèque universitaire, on pouvait prendre un bateau. Alors dans d'autres villes, on prendrait le bus, mais à La Rochelle, on peut prendre le bateau, alors c'est vraiment sympa, hein. D'ailleurs, les touristes ne s'y trompent pas, il y a énormément de tourisme à La Rochelle, c'est l'activité, je pense, économique principale à La Rochelle, le tourisme. Alors il y a plein de choses à faire, notamment un super aquarium à visiter. C'est un chouette aquarium. Alors pour y accéder, on prend un ascenseur, et cet ascenseur, il simule une descente dans les fonds marins. Alors l'ambiance est très spéciale dans l'ascenseur, alors ça bouge, les lumières s'éteignent, et finalement ça fait un peu peur, comme si on s'enfonçait au fond de la mer. À part l'aquarium, bon, il y a plein de choses à faire. Et je me rappelle aussi le musée du Nouveau Monde. Alors, il se trouve en ville, je crois, dans une petite rue piétonne. Et ce musée du Nouveau Monde retrace l'histoire des siècles passés de La Rochelle, notamment l'histoire économique et la place de La Rochelle dans le commerce triangulaire. Vous savez, le commerce triangulaire, c'était entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et cette période noire de l'esclavage et de la prospérité des villes atlantiques. Alors dans le passé, voilà, La Rochelle était une ville très très riche qui vivait de ce commerce-là. Voilà, j'ai vraiment adoré y vivre. Alors la position atlantique de cette ville rend le climat très spécial, hein. Alors il fait doux. Alors quand on me demande quelle est ma ville française préférée, j'hésite toujours entre Bordeaux et La Rochelle, mais quand même je réponds toujours La Rochelle. Alors c'est une ville où j'ai vécu moi-même pendant quelques mois à l'occasion d'un semestre universitaire et j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment une très chouette ville où il fait vraiment bon vivre. Alors la situation économique à La Rochelle est pas très très bonne. Je crois qu'il y a plus de chômage à La Rochelle que dans d'autres villes similaires en France. Mais malgré tout, je dois dire qu'il y a une atmosphère particulière. Alors je me rappelle, j'habitais en centre-ville, dans un vieil immeuble, tout en haut, sous le toit, dans un petit studio. Et le matin, pour aller à l'université, je partais à pied, et je longeais la plage. Donc je marchais au bord de la mer, comme ça. C'était vraiment très agréable. De la même façon, lorsqu'on allait à la bibliothèque universitaire, on pouvait prendre un bateau. Alors dans d'autres villes, on prendrait le bus, mais à La Rochelle, on peut prendre le bateau. Alors c'est vraiment sympa, hein. D'ailleurs, les touristes ne s'y trompent pas. Il y a énormément de tourisme à La Rochelle. C'est l'activité, je pense, économique principale à La Rochelle, le tourisme. Alors il y a plein de choses à faire, notamment un super aquarium à visiter. C'est un chouette aquarium. Alors pour y accéder, on prend un ascenseur et cet ascenseur il simule une descente dans les fonds marins. Alors l'ambiance est très spéciale dans l'ascenseur. Alors ça bouge, les lumières s'éteignent et finalement ça fait un peu peur, comme si on s'enfonçait au fond de la mer. À part l'aquarium, bon, il y a plein de choses à faire. Et je me rappelle aussi le musée du Nouveau Monde. Alors il se trouve en ville, je crois dans une petite rue piétonne, et ce musée du Nouveau Monde retrace l'histoire des siècles passés de La Rochelle, notamment l'histoire économique et la place de La Rochelle dans le commerce triangulaire. Vous savez, le commerce triangulaire, c'était entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et cette période noire de l'esclavage et de la prospérité des villes atlantiques. Alors dans le passé, voilà, La Rochelle était une ville très très riche qui vivait de ce commerce-là. Voilà, j'ai vraiment adoré y vivre. Alors la position atlantique de cette ville rend le climat très spécial, hein. Alors il fait doux.
Exercice 4. Vous allez entendre des idées pour un entretien d'embauche réussi. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 7. il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour, dans la chronique conseil d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour bien se préparer à l'entretien d'embauche et je l'espère pour le réussir. L'entretien d'embauche, c'est la moitié du chemin vers l'emploi qui vous intéresse. C'est un exercice important mais souvent stressant. Alors la première étape est de bien s'organiser. Par exemple, en préparant quelques questions à poser lors de l'entretien. Elles montreront votre curiosité et votre intérêt pour le poste proposé. Il vous faudra aussi penser à apporter votre lettre de motivation et votre CV mis à jour, sans oublier votre agenda pour convenir de notre rendez-vous éventuel. Le jour de l'entretien, il vous faudra être ponctuel. Pour cela, planifiez votre itinéraire et arrivez au moins un quart d'heure en avance. N'oubliez pas de prendre le numéro de téléphone de l'entreprise pour avertir l'employeur en cas de retard. Il est aussi important de soigner son apparence en adoptant une tenue correcte, propre et discrète, adaptée au milieu professionnel de l'entreprise. Votre attitude est essentielle. Dès le premier contact, soyez ouvert, poli, agréable et souriant. L'objectif est de donner une bonne image de soi. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et répondez clairement à ses questions. Enfin, contrôlez votre gestuelle. Ne croisez ni les bras ni les mains, car cela est parfois interprété comme une posture fermée. Surtout pas de panique, car n'oubliez pas que le recruteur cherche à en savoir plus sur vous et n'est pas là pour vous stresser. L'entretien doit prendre la forme d'un échange. Il ne s'agit pas d'une audition ni d'un interrogatoire. Au début de l'entretien, l'employeur vous posera des questions simples pour briser la glace, alors profitez-en pour vous mettre à l'aise tout en restant concentré. Il existe cependant quelques questions pièges auxquelles il faut être bien préparé. Par exemple, pourquoi vous levez-vous chaque matin est destiné à mieux connaître vos priorités. Gardez votre calme et prenez le temps de réfléchir avant de répondre à ce genre de questions. Vous devrez y apporter des réponses nuancées qui vous semblent personnelles, mais sans jamais oublier d'apparaître aux yeux de l'employeur comme compétent et professionnel. Il faut également faire attention aux erreurs à ne pas commettre. Quand vous expliquerez votre parcours professionnel, faites attention à ne pas trop en faire. Ne soyez pas excessif en utilisant beaucoup de superlatifs car vous pourriez être perçu comme prétentieux ou arrogant. Ne vous sous-estimez pas, mais restez modeste. Critiquer ses anciens employeurs et parler d'argent trop rapidement sont également deux grosses erreurs à ne surtout pas commettre. Enfin, il est important de bien conclure. Ne vous relâchez surtout pas à la fin. Bonjour, dans la chronique conseil d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour bien se préparer à l'entretien d'embauche et je l'espère pour le réussir. L'entretien d'embauche, c'est la moitié du chemin vers l'emploi qui vous intéresse. C'est un exercice important mais souvent stressant. Alors la première étape est de bien s'organiser. par exemple en préparant quelques questions à poser lors de l'entretien. Elles montreront votre curiosité et votre intérêt pour le poste proposé. Il vous faudra aussi penser à apporter votre lettre de motivation et votre CV mis à jour, sans oublier votre agenda pour convenir de notre rendez-vous éventuel. Le jour de l'entretien, il vous faudra être ponctuel. Pour cela, planifiez votre itinéraire et arrivez au moins un quart d'heure en avance. N'oubliez pas de prendre le numéro de téléphone de l'entreprise pour avertir l'employeur en cas de retard. Il est aussi important de soigner son apparence en adoptant une tenue correcte, propre et discrète, adaptée au milieu professionnel de l'entreprise. Votre attitude est essentielle. Dès le premier contact, soyez ouvert, poli, agréable et souriant. L'objectif est de donner une bonne image de soi. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et répondez clairement à ses questions. Enfin, contrôlez votre gestuelle. Ne croisez ni les bras ni les mains, car cela est parfois interprété comme une posture fermée. Surtout pas de panique, car n'oubliez pas que le recruteur cherche à en savoir plus sur vous et n'est pas là pour vous stresser. L'entretien doit prendre la forme d'un échange. Il ne s'agit pas d'une audition ni d'un interrogatoire. Au début de l'entretien, l'employeur vous posera des questions simples pour briser la glace, alors profitez-en pour vous mettre à l'aise tout en restant concentré. Il existe cependant quelques questions pièges auxquelles il faut être bien préparé. Par exemple, pourquoi vous levez-vous chaque matin est destiné à mieux connaître vos priorités. Gardez votre calme et prenez le temps de réfléchir avant de répondre à ce genre de questions. Vous devrez y apporter des réponses nuancées qui vous semblent personnelles, mais sans jamais oublier d'apparaître aux yeux de l'employeur comme compétent et professionnel. Il faut également faire attention aux erreurs à ne pas commettre. Quand vous expliquerez votre parcours professionnel, faites attention à ne pas trop en faire. Ne soyez pas excessif en utilisant beaucoup de superlatifs, car vous pourriez être perçu comme prétentieux ou arrogant. Ne vous sous-estimez pas, mais restez modeste. Critiquer ses anciens employeurs et parler d'argent trop rapidement sont également deux grosses erreurs à ne surtout pas commettre. Enfin, il est important de bien conclure. Ne vous relâchez surtout pas à la fin.
C'est la fin du test de compréhension orale.